Dans la paracha Vayechi, Yaakov, avant de quitter ce monde, est entouré de ses fils. Et il leur dit: Rassemblez-vous, je veux vous raconter ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Yaakov avait l'intention de leur révéler quelle serait la suite des temps. Il voulait parler de la date de la venue du Messie. Et Rashi remarque d'ailleurs que ces mots correspondent les mots. On a le mot Ketz dans le livre de Daniel. On prise au sens littéral, l'expression Be'aharit Hayamim fait référence à l'avenir. Littéralement, c'est dans la suite des temps ou dans l'après des jours, comme a traduit André Chouraqui. André Chouraqui a tenté une traduction de la Bible proche de l'hébreu. Mais il a fait cette traduction comme une personne connaissant l'hébreu moderne, plutôt que comme un philologue tentant de reconstruire le sens antique, ou mieux encore, comme un juif éclairant sa compréhension du texte au moyen de la Torah orale et de la transmission du sens affirmé par nos maîtres. Nos maîtres transmettent donc la signification de ces deux mots à la fin des jours, c'est-à-dire à l'époque messianique. Mais en lisant cette paracha, on n'y découvre aucune révélation sur la fin de l'histoire. On y trouve uniquement, après les paroles de Yaakov, on y trouve des bénédictions qu'il adresse à chacun de ses fils. Comment comprendre cela? Le Midrash va expliquer que la Shekhina s'est à ce moment-là retirée de lui, et il a donc prononcé d'autres paroles. Il souhaitait révéler le moment de la fin de l'exil, le moment de la Géoula. Et s'il avait parlé, il l'aurait fait. Mais le don prophétique l'a subitement abandonné. Alors, cela mérite d'être compris, bien sûr, ou cela pose des questions. Pourquoi Dieu refuse-t-il que cette révélation soit transmise par Jacob à ses fils? On peut supposer que l'exil est une période extrêmement longue, qui n'est pas même totalement terminée de nos jours, et donc cette longue période, accompagnée d'oppression, a probablement semblé trop déprimante à dévoiler. Comprenant qu'il ne peut révéler ce secret, Yaakov se dit intérieurement, il a été pris de doute. Mais peut-être qu'un de mes enfants n'est pas digne de cette révélation, et c'est peut-être cela qui m'empêche de parler. Il leur dit donc, peut-être qu'un de vous n'est pas entièrement fidèle à Dieu. Et ses fils lui répondent alors d'une seule voix, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël. Israël, c'est-à-dire Jacob, notre père, écoute, papa, pourrait-on dire, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ce qui veut dire, de même que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, dans notre cœur, il y a également qu'un seul Dieu. En entendant cela, Yaakov est soulagé, et une phrase vient à sa bouche qu'il murmure. Baruch Shem Kevod Malchoto Leolam Vaed. Béni soit le nom de la gloire de son règne pour l'éternité. C'est donc une réponse spontanée de Jacob que nous disons encore de nos jours à voix basse dans le schéma, sauf le jour de Yom Kippour, pour des raisons qu'il serait un peu long d'expliquer. Cette scène, nous l'avons expliquée au niveau du pshat. Voilà ce qui s'est passé. Yaakov n'a pu parler. Le Midrash va voir dans cette scène la première affirmation collective de la foi d'Israël. Les 12 tribus prouvent à Yaakov qu'elles sont unies dans la fidélité à Dieu. Et donc, rassuré, il va les bénir. Lorsque Jacob veut révéler la fin des temps et que la Shekhina se retire, le Midrash explique que Jacob a pensé d'abord, comme on vient de le dire, qu'il y avait un problème. Mais non, ce n'était pas un problème, c'est un remerciement. Jacob a remercié Hachem et pour la première fois dans l'histoire biblique, c'est un moment très fort. Tous les enfants d'un des trois patriarches sont des justes. Ce n'était pas le cas avec Abraham, qui avait eu Ishmaël. Ce n'était pas avec Yitzhak, qui avait eu Ésaü. Et Jacob pouvait, en ce moment crucial où la Shekhina l'a abandonné, il pouvait se demander, est-ce que ben, je poursuis cette habitude qui fait que dans la descendance, il y en a qui ne peuvent poursuivre la mission. Eh bien, ce moment est tout à fait spécial dans la Torah. On voit que tous les enfants du patriarche sont justes, et c'est cela la signification que l'on dit régulièrement quand on dit le schéma. Eh bien, cette seconde phrase, Baruch Shem Kevod Malchoto Le'olam Vaheh. On peut avancer aussi une autre forme de lecture, ce serait là, non plus la lecture midrashique, mais une lecture chassidique de cette scène. Ce n'est pas seulement un événement prophétique, c'est un moment de vérité intérieure. Jacob, c'est l'âme profonde du peuple d'Israël. C'est la racine spirituelle de chaque juif. Lorsqu'il tente de révéler la fin des jours, la fin des temps, c'est-à-dire la venue du Messie, il ne cherche pas à transmettre une date. Il cherche à transmettre la certitude que l'histoire va dans une direction. Et le fait que la Shekhina se soit retirée n'est pas pour lui une déception en soi, c'est simplement une invitation à regarder ailleurs, non pas vers l'avenir lointain, mais vers ses enfants eux-mêmes. Ainsi, le doute qu'a eu Jacob n'est pas un soupçon moral. Il ne se demande pas vraiment est-ce que mes enfants sont bons, est-ce qu'il y a des gens qui fautent parmi eux. Non, il se demande s'ils portent en eux la même flamme que lui, s'ils sont capables de traverser l'exil sans perdre leur identité, s'ils ont la force intérieure de tenir debout même lorsque la lumière se cache. Le retrait de la Shekhinah symbolise précisément cela, la capacité de rester fidèle même dans l'obscurité. Tout cet exil, c'est des millénaires qui doivent venir dans cette obscurité-là, et Jacob se demande, auront-ils cette force. La réponse des enfants, Shema Israël, est alors comprise comme un acte d'amour et de fidélité. Ce n'est pas une prière qu'ils récitent. Ils parlent à leur père et ils lui disent, Ô Israël, notre père, écoute, ce Dieu unique que tu as servi avec tant de vérité, nous le servons aussi. Ton Dieu est notre Dieu. Ta foi et notre foi. Ainsi, dans cette lecture chassidique de cette scène, les enfants vont rassurer Jacob, leur père, que sa lumière ne s'éteindra pas, même s'il est sur son lit de mort. Sa lumière continuera à vivre en eux. Et c'est cette unité qui est la consolation de Jacob. La fin des temps n'a pas besoin d'être révélée. Puisque les enfants d'Israël sont unis dans la foi, et en quelque sorte, la rédemption, la Géoula, elle est déjà en germe. La réponse de Yaakov est donc comprise comme un soupir de soulagement Il découvre que ses enfants portent effectivement l'unité divine dans leur cœur. Ainsi, la malchoute, la royauté de Dieu dans le monde, continuera de briller. Yaakov n'a pas besoin de transmettre une date. Il transmet une identité. Ses enfants ne reçoivent pas une prophétie, ils reçoivent une mission. Et on peut prendre une seconde de recul sur le grand miracle qui nous est à tous arrivé. 2000 ans après l'exil, Baruch HaShem, nous sommes restés juifs. Pensez à toutes les générations qui nous ont précédés depuis le début de l'exil. Pensez à tous les obstacles, à toutes les tentatives de destruction spirituelle et physique qui ont été entreprises contre nous. Eh bien, Baruch HaShem, nous sommes là. Il est resté, comme nous disent les prophètes, un reste, et la rédemption d'Israël est présente démographiquement, géographiquement, économiquement et également spirituellement, avec de plus en plus de force au fur et à mesure que les années passent. Voilà donc le premier moment. Il a voulu parler, Jacob, mais il n'a pas pu parler. Et on a vu le sens de cette tentative qui n'a pas abouti. Ce que l'on va trouver par contre dans la suite des versets, ce sont des bénédictions. Et ces paroles ne sont pas de simples bénédictions. Elles constituent une analyse du caractère de ses fils, une prophétie sur leur avenir et une définition du rôle de chaque tribu dans la construction d'un peuple. Le peuple d'Israël.